voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Élise Gruau rencontre Danielle Flommenbaum. Ce soir, femme et grand-mère. Danielle Flommenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons ce soir pour un dernier entretien dans votre maison, au coin du feu. Et vous avez rassemblé votre expérience de médecin, de gynécologue dans un livre, Femme désirée, femme désirante, paru chez Payot, qui a été un véritable succès de librairie grâce au bouche à oreille. Et suite à cette parution, de nombreuses femmes sont venues vers vous pour vous demander conseil, vous faire part de leurs expériences et de leurs difficultés, et témoigner qu'elles se reconnaissaient dans vos récits. Vous avez même créé du coup des ateliers pour réunir toutes ces femmes et travailler ensemble. Et dans ces ateliers, vous avez une sorte de figure de mère spirituelle et vous assurez cette transmission à propos de la sexualité, cette transmission qui a si longtemps fait défaut. Alors, ce soir, j'aimerais que nous évoquions une étape ultérieure dans votre vie de femme, celle de devenir grand-mère, qui est aussi l'objet de votre dernier livre, Les passeuses d'histoire. Alors, comment est-ce, Danielle Flommenbaum, de devenir grand-mère après tout le parcours que vous nous avez décrit?
Alors ça, c'est encore une mutation incroyable. C'est incroyable, bien sûr, puisque nos enfants se prolongent, deviennent parents, et ce petit être qui arrive et dont nous sommes les grands-parents, c'est une amie qui me disait, moi, bien sûr, je savais que j'allais aimer cet enfant, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, beaucoup plus que ça, c'est l'émerveillement. Beaucoup plus que ça, c'est de percevoir le passage du temps. En même temps que ces petits êtres arrivent, nous sommes nous aussi propulsés vers notre propre mort, d'une façon beaucoup plus tangible que sans être grands-parents. La grand-parentalité témoigne de l'ancestralité, on est vraiment les futurs ancêtres. Et alors tout cet événement et toutes les révolutions qui ont existé autour de la naissance, où la naissance était une affaire de femme et qui maintenant est devenue une affaire de couple, fait que la grand-mère doit trouver sa place, puisqu'elle est quand même mise un peu sur la touche. À la fois, quand tout se passe bien, elle est tout à fait respectée, justement comme future ancêtre, et comme celle qui connaît l'histoire du passé. C'est la détentrice de l'histoire, c'est une passeuse d'histoire. J'en ai fait un livre, voilà, pour raconter le statut de la grand-mère d'aujourd'hui qui avait un rôle aussi dans la transmission, étant donné toutes les révolutions sociales que l'on avait vécues et où la grand-mère d'antan, et quand je dis d'antan, c'est je dirais avant les années 70, où le fait d'être grand-mère répétait à peu près à l'identique le statut de sa propre mère, où on était dans la répétition de l'histoire. Et là, les choses ont changé, la société, et nous vivons surtout beaucoup plus longtemps. L'espérance de vie change la donne. Et donc, nous voilà dans un statut où, là encore, autant il est question d'inventer le processus qui nous rend capable de vivre notre sexualité en tant qu'adulte, là, il est important d'inventer la vie de la grand-mère. Alors, moi, je parle de la vie de la grand-mère, puisque le grand-père est mort maintenant, il y a 8 ans, avant que nos fils ne deviennent parents. Donc je suis une grand-mère sans grand-père, je veux dire. Et je pense que ça change aussi beaucoup la donne. Et je suis aussi une grand-mère de loin, puisque mes fils ont épousé des femmes, l'un vit aux États-Unis et l'autre au Mexique. Mon statut de grand-mère est une grand-mère de loin qui a un rapport complètement émerveillé de son statut de grand-mère.
Comment êtes-vous en communication avec vos petits-enfants à distance ?
Je communique avec eux par Skype d'une façon assez régulière, que ce soit une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, enfin, peu importe. Le fil est là, où on se donne des nouvelles et on se parle, et où on joue, on se raconte. On joue, l'autre jour j'étais dans la rue, il me téléphone, là il va avoir 3 ans, il voulait que je lui lise un livre. Je lui ai dit qu'il fallait que je rentre à la maison pour lui lire, et je lis des livres, et je fais la cuisine, et je chante, je danse, je dessine, on est très... ensemble, je sais être ensemble avec eux.
Et il vous arrive d'aller les voir
régulièrement? Oui. Physiquement, je voyage. Alors, je vais les voir. Et ils viennent de temps en temps aussi.
Et vous l'avez évoqué, vous avez consacré un livre à la figure de la grand-mère. Un livre qui s'appelle Les passeuses d'histoire, qui est paru chez Payot en 2015. C'est donc la génération, en gros, qui a connu la pilule, qui aujourd'hui devient grand-mère. Donc des grand-mères très différentes de celles qu'ont été leurs propres grand-mères.
Eh bien, moi, je trouve que la grand-mère, aujourd'hui, elle a des devoirs de transmission qui sont plus élargis parce qu'on sait des choses qu'on ne savait pas avant, j'ai envie de dire, sur le développement de l'enfant. On ne savait pas toute cette histoire de construction de l'enfant et de pouvoir évoquer la sexualité dans le premier cycle de la vie. Et là, j'y rajoute pour la grand-mère, mais j'ai tort, j'aurais dû en parler déjà pour les adultes, combien il est important d'inclure la mort dans la transmission aux enfants. Et je dis que les grands-parents ont à charge de permettre à leurs petits-enfants de savoir et qu'ils font partie de la succession des générations. Si on ne parle pas de la mort, on reste des éternels enfants. Alors, par contre, on sait comme une évidence que les grands-parents vont mourir. Mais justement, cet événement permet à l'enfant d'être propulsé dans sa propre vie adulte et de savoir que lui aussi deviendra grand-parent. Donc, intégrer la notion du temps va permettre au petit enfant de se propulser adulte, mieux outillé, je dirais, que sans en jamais avoir entendu parler de la mort ou faire que la mort soit encore quelque chose de tabou qui va leur faire de la peine. C'est seulement à ma génération qu'on s'est mis... Alors, je sais pas, il y a eu des trous parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. Moi, je suis pas une historienne. Mais je sais qu'à l'enterrement des oncles de mon mari, nous étions les premiers à amener nos enfants à l'enterrement. Comme une évidence, et il y avait des adultes très choqués. Comment on pouvait oser amener des enfants à un enterrement? Et mon fils aîné, qui avait 6 ans, quand on est allé enterrer son grand-père paternel, est revenu et il a dit à la maîtresse « J'ai pas pu venir parce qu'on est parti en vacances, parce qu'on est allé enterrer mon grand-père. » Donc pour lui, il avait tout à fait intégré que c'était un événement qui avait ponctué sa vie et comme une évidence. Donc il est fondamental de savoir que c'est poli et respectueux pour les enfants de les amener aux enterrements des gens de leur famille. Et ça se fait réellement de plus en plus. Si vous voulez, les grands-parents, d'une façon générale, sont très différents d'antan. On a quand même l'image, alors je repars un peu sur les grands-mères, elles sont en deuil, elles ont eu des vies difficiles, il y a eu les guerres, il y a eu les épidémies, il y a eu tous ces morts de pères, de frères, de fils, elles sont en deuil, elles sont pas très marrantes, et elles sont pas très causantes. Et là, la grand-mère est jeune, elle est en pleine forme, souvent elle est... Où elle est sportive, où elle est intellectuelle, peu importe. Elle est vivante pour transmettre à ses petits-enfants. Et c'est ça. Et je dirais que tout ce plaisir spontané, pour moi, doit pouvoir inclure la transmission de la sexualité et de la mort pour permettre justement à ses enfants d'être mieux outillés que nous l'avons été pour aborder leur vie future et leur vie adulte, en sachant que nous sommes toujours confrontés à l'autorisation des parents. Hein, comment les parents doivent nous permettre d'être présents et présentes dans la famille sans empiéter sur les plates-bandes de l'éducation parentale.
Daniel Flommenbaum, c'est tous ces enseignements que vous avez pu élaborer au cours de votre expérience, de votre vie, et aussi les enseignements sur ce qui vous avait fait défaut dans votre éducation, dans votre famille. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en faire part à votre maman, de le partager avec elle et d'autres personnes de vos ancêtres, ces découvertes?
Ben, si vous voulez, moi je n'ai pas connu mes grands-mères. Elles étaient mortes avant ma naissance, toutes les deux. Et quand je demandais à ma mère qu'est-ce que c'était qu'une grand-mère, j'étais petite, elle se mettait à pleurer. Donc je pouvais pas tellement insister. Je sentais que je faisais du chagrin à ma maman. Elle m'a un peu, sur la fin de sa vie, un peu parlé de ses grands-mères à elle. Et je voyais que c'était important pour elle, ses grands-mères. Comment elle était heureuse de pouvoir les voir ou les recevoir. C'était des personnes très chères à son cœur.
Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de ces mots qui vous avaient fait défaut sur la sexualité, sur des histoires de famille? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interroger votre
mère? Oui, j'avais plus de 30 ans quand j'ai demandé à ma mère comment ça s'est passé, sa vie de femme, sa vie, sa sexualité. Et elle m'a dit qu'elle savait toujours pas très bien ce que c'était. Elle avait eu qu'un homme dans sa vie, c'était mon père. Et elle avait jamais eu de plaisir ni de jouissance. Elle n'avait pas saisi l'importance pour... Alors pour elle-même, n'en parlons pas. Mais donc, elle ne pouvait pas me transmettre quoi que ce soit pour m'informer que j'allais découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et mes grandes sœurs ont emboîté le pas de ma mère pour ne pas en parler non plus. Donc, si vous voulez... J'ai souffert de ne jamais avoir entendu parler de sexualité et même de mort, puisqu'on ne m'avait pas mis au courant de la mort d'un oncle. Alors bien sûr pour ne pas me faire de peine, mais je l'apprends par un cousin qui me dit, t'as vu, elle est en noir. Elle me dit, bien sûr qu'elle est en noir puisqu'elle vient de perdre son mari. Et on avait, je sais pas, une dizaine d'années. Non, moi, c'est très blessant pour un enfant. Moi, j'ai pas compris pourquoi il m'avait pas prévenu. Quand je parle de transmission des grands-parents, il faut saisir que l'enfant a vraiment le droit à recevoir la vérité de son histoire. Ça me semble tellement important. Et il y a tellement de secrets, tellement d'omissions, tellement d'inconnus. Je pense que les grands-parents sont là aussi pour raconter eh ben les traumatismes, si on a compris que les traumatismes se transmettaient tant qu'ils ne sont pas révélés, ça change la donne quand même.
Hein. Là, vous évoquez les idées de la psychanalyse transgénérationnelle,
oui,
de ces fantômes qui perdurent de génération en génération.
Voilà. Hein, et où là, on a un rôle à jouer pour rétablir, ben, redonner de la dynamique, dénouer des nœuds qui vont permettre aux petits-enfants d'être plus dégagés de leur histoire familiale. Ça me semble faire partie de la transmission des grands-parents.
Est-ce que vous pensez que ce sera vous, ou plutôt vos enfants, qui transmettront à leurs enfants, à vos petits-enfants, les histoires de famille ?
J'ai la prétention déjà de pouvoir commencer, en étant effectivement surprise de pas très bien savoir le faire. Et puis, il faut répéter, il faut pas seulement... On dit, ah, je lui ai déjà dit, mais ça suffit pas. Hein, vous savez comment la répétition... est importante, et il faut répéter, il faut dire, alors c'est très compliqué toute cette transmission, puisqu'il faut la donner au bon moment, si on la donne prématurément, ça va pas, et puis si on la donne jamais, ça va pas non plus. Alors, mais on sait quand même qu'on peut toujours se rattraper, ça c'est important. On peut toujours se rattraper de ce qu'on n'a pas su faire, on peut toujours se soigner, de nos traumatismes, se prendre en main ne dépend pas de l'âge que l'on a. À tout âge, on peut se demander de mettre de la clarification dans son histoire et dans son comportement pour devenir de plus en plus soi-même et ça aide à passer une meilleure fin de vie.
Vous évoquez cette figure de la grand-mère qui entre dans un deuxième printemps.
Mais oui.
Est-ce que vous-même vous ressentez en vous ce deuxième printemps ? Qu'est-ce que ça signifie pour
vous ? Alors je veux dire, il est déjà bien entamé mon deuxième printemps, mais je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Le deuxième printemps signifie la ménopause de la grand-mère. Hein, signifie à la fois on passe dans le troisième âge et à la fois on peut ressentir et vivre un regain de vitalité puisque notre corps nous dit stop sur la sexualité référée à la reproduction. Nous ne pouvons plus nous prolonger, nous ne pouvons plus devenir mère, et donc une fonction s'arrête. Et comme dans l'ancien temps, la fonction maternelle était la représentation du statut de la femme. Une femme ménopausée avait la sensation de ne plus servir à rien, elle disait. Je me souviens au début, de jeune gynécologue, j'ai eu des femmes, parce qu'après cette expression a disparu, mais j'ai eu des femmes qui me disaient, mais elles étaient en larmes, elles étaient ménopausées, elles avaient des bouffées de chaleur, elles ne savaient pas... Elles ne savaient plus comment vivre leur vie et elles disaient « je ne sers plus à rien ». Et alors ça s'est modifié. Hein. Les femmes ménopausées ont saisi, comme je vous l'ai dit, comme elles avaient encore longtemps une espérance de vie encore tellement longue, il est question de se rendre compte et d'apprendre à vivre cette vie de femme qui ne peut plus être une vie de mère. Et grand nombre de femmes découvrent d'ailleurs, se révèlent femmes, hein, comme s'il fallait une vraie séparation maternelle, du maternel, pour pouvoir oser découvrir cette féminité. Et ce deuxième printemps correspond au fait de se prendre en main dans une dynamique active et curieuse, plutôt que subissant l'expérience de l'âge.
Daniel Flomenbaum, au cours de votre carrière, vous êtes passé d'une gynécologie qui était une médecine de la mère, de la maternité, à une gynécologie qu'on peut appeler une médecine de la femme en général. Quelles sont les étapes de cette médecine de la femme que vous appelez de vos voeux encore aujourd'hui ?
Comment on est encore dans la confusion de la mère et de la femme ? Comment la médecine allopathique ne sait pas vraiment inclure le statut de la femme dans ses études et dans ses soins, hein, c'est toujours vu d'une manière hygiéniste ou qui va de soi. Moi, je trouve que tant que les médias, tant que la société n'aura pas saisi qu'une sexualité adulte s'origine dans le premier cycle de construction de l'enfance, c'est-à-dire avant 7 ans, eh ben nous allons toujours répéter les difficultés de pouvoir avoir l'aisance et la spontanéité de la rencontre charnelle et sexuelle. Je vois comment il existe toujours une misère sexuelle et comment tout le monde est malheureux, ou alors dans le déni, ou alors dans l'incapacité de la vivre, et comment je pense que la transmission va permettre des nouvelles empreintes pour les futures générations.
Et comment observez-vous les débats qui animent actuellement la société autour de la libération de la parole des femmes sur le harcèlement subi par des hommes, sur les inégalités hommes-femmes encore à l'œuvre dans la société? Comment est-ce que vous observez ça, forte de toute votre expérience?
Je poursuis ce que je viens de vous dire. Il est reconnu maintenant qu'un enfant averti de ce que c'est que la sexualité va se faire moins harceler et convoiter que celui qui n'y connaît rien et qui est quand même ignorant et de tout. Il est connu que savoir parler de ce qui... Une jeune là récemment a été éventuellement un peu dérangée par un homme et lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là, moi je suis beaucoup trop jeune, c'est pas possible de vouloir des choses comme ça pour moi. Bah, je veux dire, être capable de dire ça, déjà ça permet de se défendre, ça permet... Moi, je pense que c'est la parole va être un très grand virage de cette capacité à pouvoir éviter les abus, et puis que les femmes puissent être accueillantes et réceptrices. Alors c'est sûr que ça va changer aussi beaucoup la donne d'un apaisement, je trouve, de la violence sexuelle, et que ces hommes puissent être aussi bien éduqués à savoir pas tout mélanger, les pulsions sexuelles instinctives et la rencontre et l'échange. Donc, si vous voulez, là, on n'est encore pas loin du béaba de l'évolution humaine du dialogue homme-femme.
Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter qui ne serait pas la pornographie ? Qu'est-ce qui peut être accessible à des enfants qui éduquent un rapport homme-femme plus sain dans la société ?
Eh bien, ça commence dans la famille, parce que, si vous voulez, le social donne le ton et la... parole, la famille donne la musique. Alors déjà qu'on ait une bonne musique et une bonne éducation dans la famille et que le social puisse continuer l'entreprise d'une sexualité qui est une sexualité, qui est une rencontre. C'est pas la course à l'orgasme, c'est pas ça la sexualité. Hein, la sexualité, c'est la capacité de pouvoir recevoir, accueillir des énergies nouvelles, pour un homme se ressourcer dans le corps d'une femme, pour une femme pouvoir s'élever par rapport à ces énergies nouvelles qui sont des énergies de vie et qui nous permettent de nous émerveiller de la vie. C'est un temps où il est question de cueillir le remède, et le remède, c'est comme le mystère de la vie. Donc, si on parle d'une sexualité qui permet de contacter le mystère de la vie, visiblement, on s'humanise. On arrête d'être complètement obsédé par la jouissance, par l'orgasme, par une sexualité que je dirais de nurserie, fantasmatique. Si vous voulez, on n'a pas encore compris que la sexualité des fantasmes était une sexualité qui se construisait très tôt dans l'enfance, non pas avec ce qu'on nous avait dit de la sexualité, mais avec ce qu'on nous n'en avait pas dit. Et donc, cette énergie, on a capté en môme des éléments qui nous permettaient de saisir que les adultes parlaient de sexualité, et on essaye de s'en faire une représentation, puisqu'on ne nous en parle pas. Donc, si vous voulez, l'avenir est vraiment à une éducation de saisir que cette sexualité est une sexualité qui entretient la santé et qui n'est pas une course à la jouissance, et que c'est un processus et qu'on n'atteindra jamais le bout.
Daniel Schoenbaum, merci beaucoup pour ces entretiens et de nous avoir accueillis ici dans votre maison, très belle maison au coin du feu.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Fin de cette rencontre d'Élise Gruau avec Daniel Schoenbaum. À voix nue, réalisation François Connac. Prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.